pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue. Pollution, bas salaire, conditions de travail déplorables. 4 ans après l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, les grandes marques du textile continuent de sous-traiter en cascade, sans forcément de regard sur les usines où elles font produire leurs vêtements. Les géants du secteur commencent à intégrer, au moins dans leur discours, des mots, des expressions comme responsabilité sociale ou mode durable. Alors, effet d'annonce ou réelles avancées, comment cette industrie de la mode a-t-elle évolué ces dernières années? Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, et si nous partions pour un tour du monde des initiatives pour l'environnement. Par leurs projets ingénieux et leurs engagements en faveur d'une écologie solidaire, ils et elles font bouger les lignes. J'ai le plaisir de recevoir deux responsables de l'association française Cap ou pas Cap. Bonjour Clément Hilary et Margot Nasreddine.
Bonjour. Bonjour.
Votre association soutient des initiatives écologiques positives et puis en lance certaines parfois. Et vous avez notamment dernièrement lancé un frigo solidaire. Vous nous expliquez le principe ?
Donc un frigo solidaire, c'est un frigo qui est posé sur l'espace public et qui est accessible et ouvert à tous, où chacun peut venir déposer et ou prendre du surplus alimentaire et sans obligation de réciprocité. Donc c'est ce mobilier collaboratif, il a plusieurs objectifs. Tout d'abord un premier objectif de réduire le gaspillage alimentaire. Et il a un deuxième objectif de recréer du lien social, puisque les gens qui vont s'emparer de ce mobilier, ils vont pouvoir échanger et, entre eux avec leurs voisins qui n'ont pas forcément l'occasion de parler.
Et ce frigo solidaire est situé où ?
Alors, on a lancé le premier frigo solidaire de Paris, qui se trouve au 46 rue Ramey, dans le 18e arrondissement de Paris. Et en fait, il est accueilli par un restaurant qui est partenaire avec nous sur ce projet, qui s'appelle la Cantine du 18.
L'idée, c'est que les habitants du quartier pourront aller dans ce restaurant, ouvrir le frigo et donner de la nourriture.
Exactement.
Et l'initiative de ce frigo solidaire est née en Allemagne. Elle s'est développée ensuite en Espagne, au Canada.
Tout à fait. Il y a énormément de frigos solidaires qui ont été développés partout dans le monde aujourd'hui, et même partout en France. C'est d'ailleurs étonnant que Paris n'en ait pas un, et c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi dans ce projet.
Clément Hilary, avec votre association Cap ou pas Cap, vous avez lancé également une boîte à dons. Vous nous expliquez ?
Cap ou pas Cap, nous, on est une association qui vise à favoriser l'engagement citoyen dans la transition. Et dans ce cadre-là, on a en effet eu l'occasion, avec d'autres associations, avec d'autres des habitants, des citoyens, de monter 3 projets. D'abord une boîte à dons, ensuite un garde-manger solidaire, et puis là plus récemment, le frigo solidaire. On est dans une logique participative dans laquelle on va inviter les citoyens, les habitants à venir concevoir, réfléchir l'objet, le fabriquer dans les chantiers participatifs. Et à travers tout ça, à travers cette logique participative dans la construction et puis dans la vie de l'objet, ça permet aux habitants de se rendre compte de leur capacité d'agir et de transformer leur quartier.
Et la boîte à dons, alors à quoi ça ressemble ?
Alors la boîte à dons, c'est assez simple, c'est une sorte de grande armoire qui est donc là dans le 12e place Félix Éboué, dans laquelle on trouve différents placards et dans laquelle chacun peut déposer ou prendre les objets selon ses besoins, dans l'idée à chaque fois de mettre des objets qui sont réutilisables par l'autre. Et on observe, en fait on a mené différentes observations, et ce qu'on voit, c'est en moyenne 50 d'objets qui sont déposés et pris par heure, et 20 de personnes qui interagissent avec la boîte toutes les heures.
Et vous parlez aussi de garde-manger solidaire.
Oui, c'est ça, c'est un projet qu'on a mis en place cet hiver, en décembre, janvier, et qui est dans une logique très proche de celle du frigo. C'est-à-dire chacun peut venir déposer des aliments ou prendre des aliments.
Et ce sont des initiatives qui sont réplicables ailleurs, partout.
Tout à fait, oui. Ce qu'on met en avant, soit à travers la carte, soit à travers ce type d'action-là, c'est des actions qui sont réplicables. C'est-à-dire que là, l'idée des boîtes à dons, des garde-manger solidaires ou des frigos, c'est des choses qui existent déjà depuis longtemps ailleurs et qui pourraient exister en théorie partout. Et c'est encore une nouvelle preuve que, en effet, comme disait Margot, on n'a pas besoin d'attendre. Les solutions, c'est aussi à nous en tant que citoyens et acteurs de la cité, entre guillemets, de les apporter. Il y en a déjà beaucoup, beaucoup qui le font. Il y a déjà plein d'alternatives, plein de projets, plein de solutions locales qui sont portées. C'est à nous de venir les appuyer, les soutenir et d'en créer des nouvelles.
Merci Clément Ellary et Margot Nasreddine d'être venus dans notre studio pour parler de ces initiatives que vous soutenez avec votre association Cap ou pas Cap.
Merci à vous. Merci beaucoup.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Près de 2 milliards 500 millions d'habitants de notre planète consomment déjà des insectes. C'est un tiers de la population mondiale. Si nous en consommions tous, jusqu'à 18% de la production mondiale de gaz à effet de serre pourrait être évitée. Et tout cela, Kaïtou Yen, entrepreneur burkinabé, l'a bien compris. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé l'entreprise Faso Pro pour valoriser le potentiel nutritionnel des insectes en Afrique. Pourquoi avez-vous eu envie d'agir dans ce domaine-là ?
Déjà, on a une surpopulation considérable et la population mondiale va atteindre les 10 milliards d'habitants d'ici à 2050. Et les ressources deviennent de plus en plus rares. Il va falloir trouver en fait de nouvelles sources pour pouvoir nourrir cette planète. Vu le potentiel nutritionnel des insectes, je pense que ce sont des aliments qui vont être amenés à jouer un grand rôle dans cette alimentation du futur. Et la deuxième raison, c'est justement tous ces effets bénéfiques pour l'environnement qui sont le fait que l'élevage conventionnel aujourd'hui utilise beaucoup de ressources naturelles et dégage beaucoup de gaz à effet de serre, et ce qui n'est pas le cas des insectes, et ça pourrait aussi contribuer à la sécurité alimentaire.
De quels insectes vous parlez en particulier et quel est leur potentiel nutritionnel ?
Alors aujourd'hui, nous développons pas mal de produits à base de la chenille de karité, qui est un insecte comestible au Burkina Faso. Et sachez que cette chenille-là est particulièrement très riche en protéines. Ça peut aller de 60 à 65% de protéines. Et ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de fer dans ces chenilles et beaucoup d'acides gras essentiels comme les oméga 3 qui sont très bons pour la prévention des maladies cardiovasculaires, par exemple. Et aujourd'hui, nous essayons de diversifier pour étendre justement notre gamme de produits à d'autres insectes comestibles comme les criquets.
Et qu'est-ce que vous faites exactement au sein de votre entreprise ? Vous commercialisez des insectes ?
Les matières premières sont approvisionnées de manière traditionnelle, c'est-à-dire à travers une collecte traditionnelle qui se passe dans la nature. Donc nous organisons des associations de femmes, nous formons à la technique de collecte et de traitement de ces chenilles-là. Et après, lorsque nous disposons de la matière première, les chenilles bien bouillies et séchées, nous les amenons au sein de notre unité de transformation qui est basée à Ouagadougou. Il faut dire que la zone de collecte est située quand même dans la zone ouest du pays, à 400 km de Ouagadougou, où se trouve notre unité de transformation. Et là, nous essayons de proposer plusieurs types de produits, tels que les chenilles à croquer et pimentées. Non pimentées, c'est un peu comme des chips, il faut juste les manger n'importe quel moment. On est en train de développer des crackers aux chenilles et des barres protéinées à la chenille qui vont voir le jour avant la fin de l'année 2017.
Et quel succès remportent ces différents produits à base d'insectes ?
Alors, pour le marché burkinabé, il n'y a pas trop de soucis. C'est vrai qu'au début, on a eu pas mal de barrières, que ça ne faisait pas partie des habitudes alimentaires de certaines populations. Si vous prenez par exemple le cas du Burkina Faso, où l'ethnie majoritaire, les Mossi, qui sont dans le centre du pays, ne sont pas habitués à ce genre de chenilles, qui sont plutôt originaires de la partie ouest du pays. Alors, l'idée de consommer des chenilles, pour eux, au début, ce n'est pas possible. Mais il suffit juste d'arriver à convaincre ces personnes-là une fois pour qu'elles goûtent. Et une fois qu'elles ont goûté, c'est parti, quoi. Et ça marche en tout cas très bien au Burkina. Et nous cherchons maintenant à développer dans d'autres produits, à exporter les produits ou du moins à exporter la technologie, c'est-à-dire le savoir-faire, pour adapter la manière de faire à d'autres insectes, à des insectes comestibles qu'on trouve localement dans ces pays. C'est ainsi que le projet sur les criquets est en train de voir, par exemple, le jour au Niger.
Vous êtes en train de lancer un projet similaire au Niger?
Pour les criquets, parce que c'est là-bas, c'est les criquets qui sont disponibles et c'est les criquets qui sont consommés par les populations locales.
Et combien ça coûte?
Le prix moyen du sachet de chenille de 70 grammes en coûte à peu près 500 francs CFA, soit moins d'un euro. Ça reste abordable, je pense. Et l'intérêt aussi pour ce projet-là, c'est que comme les chenilles sont disponibles que 3 mois de l'année, nous, en trouvant la manière de les conserver et de les traiter, ça permet de garder le produit sur 18 mois, donc le produit reste disponible toute l'année à un prix fixe.
Quelles sont les quantités que vous produisez par an?
Alors, nous sommes sur une moyenne de 10 tonnes par an depuis que nous avons commencé en 2014.
C'est un secteur rentable, du coup?
C'est encore trop tôt peut-être pour dire que c'est très très rentable, mais je pense que c'est un secteur d'avenir et je crois fermement que c'est incontestablement l'alimentation du futur. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Merci beaucoup Kaïtou Oyen, entrepreneur burkinabé à la tête de Faso Pro qui veut valoriser le potentiel nutritionnel des insectes sur le continent africain.
Merci à vous et à très bientôt.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Et notre tour du monde nous emmène en Algérie. Elle s'est lancée dans le recyclage du plastique et dans l'économie circulaire. Bonjour Besma Belbejaoui.
Bonjour madame.
Vous avez fondé en 2012 Plasticycle, une entreprise pour recycler des déchets plastiques à Constantine, en Algérie. Comment vous est venue cette idée-là?
Je suis biologiste de formation. Je me suis toujours penchée sur l'écologie, notre futur, le futur de nos enfants. Et l'idée est venue d'un besoin réel remarqué en Algérie, vu que les déchets n'étaient pas recyclés à l'époque. On faisait uniquement de la collecte des déchets. Et moi, j'ai vu en ça une opportunité d'affaires pour transformer les déchets en matières premières régénérées.
5% de déchets solides étaient recyclés à l'époque, chaque année en Algérie.
Exactement, exactement. Uniquement 5% à l'époque. Et même actuellement, on n'atteint pas, on ne dépasse pas les 10%. Sachant que la situation des déchets en Algérie est à peu près de 16 millions de tonnes de déchets par an, avec 139 CET, centres d'enfouissement technique, et 26 déchetteries, 18 centres de tri, on est encore loin de transformer tous nos déchets en matière régénérée. Voilà.
Vous vous êtes particulièrement intéressé aux déchets plastiques, en fait?
Oui, exactement.
Lesquels?
Enfin, généralement, c'est des bouteilles, c'est des ustensiles de maison, des chaises, enfin un peu de tout. Mais chaque matière, bien sûr, elle est triée selon sa formule chimique.
Et où vous récupérez ces déchets plastiques?
Il y a deux voies en fait à emprunter. Soit on les récupère des centres d'enfouissement technique étatiques. Donc, du coup, c'est l'État qui nous vend le déchet, qui sont récupérés par les communes. On achète le déchet, on le traite.
Donc, il y a du tri qui est opéré?
Oui, il y a du tri opéré soit au centre d'enfouissement technique, grâce au centre de tri intégré là-bas, soit on le trie nous-mêmes. Deuxième choix, c'est des collecteurs indépendants qui eux-mêmes collectent le déchet en amont du centre d'enfouissement technique et qui nous le vendent trié et bien sûr par matière.
Et quel est votre modèle économique? Vous avez ouvert une petite usine, comment elle fonctionne?
Alors notre matière première qui est le déchet est acheminée vers l'unité. Le plastique est acheminé vers l'unité, il est traité, trié, traité, broyé, lavé et granulé et vendu à différentes industries telles que l'industrie du textile, l'industrie de l'emballage, l'industrie plastique en général.
Et aujourd'hui, vous recyclez combien de tonnes de plastique par an?
Alors, à peu près, il faut compter dans les 35 à 40 tonnes par mois. Donc, on peut atteindre des chiffres assez importants par an. C'est fiable économiquement comme industrie. Ça, il faut savoir que ça peut générer dans les 56 milliards de dinars, donc à peu près les 450 millions d'euros par an, de gains annuels que pourrait générer le tri et la valorisation de déchets et qui est en quête d'investissement, et avec une croissance quand même de 3% par an, selon l'Agence nationale algérienne de déchets.
Et pour vous, quels sont les bienfaits de cette économie circulaire que vous êtes en train, à votre échelle, de mettre en place pour le plastique ?
Alors, que ce soit pour le plastique, le carton, l'aluminium, le verre, c'est important parce que ça crée de l'emploi, ça génère aussi de la valeur ajoutée pour nos produits. Et le plus important, c'est un respect de l'environnement et une économie verte, une économie propre future. Il faut changer un peu aussi les mentalités et les modèles économiques actuels pour être des entreprises en fait un peu plus éco-responsables.
L'idéal évidemment serait qu'il n'y ait plus, ou en tout cas beaucoup moins de plastique qui circule.
Exactement, exactement. Et pour sensibiliser les gens, Plasticycle a vraiment fait pas mal de communication dans ce sens, surtout pour l'utilisation de sachets en plastique. Et c'est notre en fait objectif. Hein.
Et aujourd'hui, en Algérie, 5 millions de sachets plastiques sont utilisés par an.
Oui, exactement. C'est énorme. Et on espère vraiment que ça change, surtout en se basant sur les effets catastrophiques sur l'environnement, sur la Méditerranée aussi. Ça pollue énormément. Et de revenir aux sources, d'utiliser soit du papier, soit des couffins à l'ancienne. Et c'est notre en fait objectif. Hein.
Quand vous parlez de couffin, qu'est-ce que vous entendez en fait pour remplacer les sacs plastiques ?
Le couffin traditionnel algérien, qui est fait à partir de Helfa et qui est vraiment extrêmement joli.
Et voilà. Le Helfa, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une plante qui est produite ici en Algérie et qu'on produit avec des sacs, des chapeaux, etc. Et c'est vraiment biodégradable et très utile. Et cela dit, on comptait se lancer pas uniquement dans la production de matières premières, mais à la production de produits finis issus de plastique régénéré.
Par exemple, quel type de produit vous aimeriez fabriquer ?
Alors, tels que par exemple des bouteilles de plastique régénéré, par exemple de l'emballage, plein d'autres choses. Mais on n'est pas encore là.
Mais ça, c'est encore un autre projet plus tard dans le futur.
Exactement, exactement. C'est un autre projet.
Merci Besma Belbedjaoui. Je rappelle que vous avez fondé en 2012 Plasticycle, une entreprise en Algérie qui recycle des déchets plastiques. Merci.
Merci à vous, Charlie.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Nous parlerons de l'industrie textile. Peut-elle être éthique ou responsable alors que les grandes marques sous-traitent à des milliers de kilomètres de leurs sièges sociaux ? On en parle dans 3 minutes à peine, juste après le flash d'information sur RFI. A tout de suite.